Chers auditeurs, le conflit actuel en Ukraine est le plus impactant pour nous, Européens, car il a détruit les bonnes relations, surtout commerciales, avec la Fédération de Russie. Ce conflit amorce aussi la fin du règne occidental absolu sur le reste du monde et montre les limites d'une fuite en avant qui risque, dans le cas présent, de se terminer en désastre militaire, politique et économique. Les médias donnent rarement la parole à ceux qui expliquent une autre réalité que celle exprimée par des médias dominants répétant la version voulue par l'OTAN. Le conflit en Ukraine est la bataille finale d'un impérialisme arrogant prêt à mettre l'Europe à feu et à sang pour nuire à la Russie. Le principal rival historique d'une élite européenne encore au pouvoir est directement issu de familles qui, à l'époque, ont propulsé le Troisième Reich, richement représenté parmi les membres fondateurs d'institutions comme l'OTAN, l'ONU, le WEF et même l'Union européenne. La peste brune porte aujourd'hui comme hier des costards et des cravates et elle ne se limite pas à quelques néo-nazis tatoués. Pour donner la parole à une de ces voix trop peu entendues, nous avons le plaisir de vous proposer un entretien réalisé en mai par nos collègues de Swissbox Conversation avec Jacques Beau, ancien colonel d'état-major général suisse, ex-membre du renseignement stratégique spécialiste des pays de l'Est. Un contenu très riche de passer 3 heures qui valent le détour et que nous avons découpé pour vous en 6 épisodes d'une trentaine de minutes chacun, plus pratique à écouter. Vous allez écouter le 4e épisode de cette série. Retrouvez tous les épisodes en cherchant le numéro 16202 sur le site radiolibre.ch. Bonne écoute.
Vous écoutez Radio Libre.
Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que quand nos médias nous donnent une information sur l'Ukraine, ils se basent exclusivement, et je souligne 3 fois le mot exclusivement, sur la propagande ukrainienne. C'est-à-dire ce que le ministre de l'Information donne comme information.
Mm-hmm. On le voit souvent. Enfin, je suis la RTS. C'est selon Zelensky, selon voilà. Les services.
C'est systématiquement
selon
ça.
Selon le Pentagone.
Alors que dans les médias ukrainiens, on voit qu'ils ont un regard beaucoup plus analytique sur les choses. Et quelquefois, alors sans être critique, parce que je pense qu'ils doivent avoir aussi leurs limites. Hein, je pense que c'est aussi Moi, je peux concevoir que dans un pays en guerre, on puisse avoir une presse dont la liberté a été un peu. C'est pas ce que je souhaite. Moi, je suis pour la liberté de la presse, la liberté d'expression totale. Mais je peux concevoir qu'on dise. Quand il faut une discipline de langage. Mm-hmm. Je le conçois pour les Russes et je le conçois pour les Ukrainiens de la même manière. En revanche, pour nous, qui ne sommes pas partis au conflit, là, je ne le conçois plus. Pour des pays comme le nôtre, pour moi, c'est totalement inconcevable. Ou alors, on est parti au conflit. Mais je pense, comme je le disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, les Ukrainiens s'en aperçoivent. Et je pense qu'un jour, si l'Ukraine, comme je le pense, risque bien de devoir laisser des plumes dans cette affaire. Je pense que certains Ukrainiens viendront se venger ici. Je le pense. Je ne peux pas l'affirmer, mais je le pense. Parce qu'on commence à voir une amertume en Ukraine concernant le fait qu'ils ont été utilisés. On les a utilisés, on les a envoyés au casse-pipe pour les autres. Et même d'ailleurs, quand on lit un petit peu ce que dit Zelensky d'ailleurs aussi, et même...
C'était emporté une fois en parlant de... On fait votre travail, sinon vous auriez envoyé vos enfants à vous.
C'est exactement, c'est ça.
Ça a très mal passé, mais effectivement, il y a...
On n'aime pas l'entendre, mais eux le ressentent comme ça. Alors, Zelensky, en plus, c'est le plus... pour reprendre d'ailleurs, tu citais Seymour Hersh, concernant l'affaire Nord Stream, Seymour Hersh a fait un autre article il y a une semaine ou deux qui est assez intéressant où il parle de la corruption en Ukraine, où il dit que l'équipe de Zelensky a détourné 400 millions de dollars ou sais pas quoi.
Oui, c'est ça.
Ouais. Alors bon, est-ce que c'est vrai de nouveau, Seymour Hersh l'a dit, mais...
Pas de fumée sans feu, mais...
Voilà,
en même temps, le Guardian disait avant la guerre que l'Ukraine était un des pays les plus corrompus du monde, même dans les index différents, c'était... Enfin, tous les journaux mainstream
alors, c'est
disaient...
Pas du monde, mais d'Europe.
Ok.
Pas d'Europe, mais c'est basé...
Pas du monde, mais... Ouais, donc, il y avait quand même une connaissance de cette corruption. Donc, on ne peut pas s'en offusquer maintenant, alors qu'on reconnaissait bien qu'elle existait avant.
Non, enfin, je veux dire, j'imagine le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on fait des sacrifices pour eux et que ça enrichit certains. C'est ça, la différence. Autrefois, on ne faisait pas de sacrifices pour eux. Tandis qu'aujourd'hui, on en fait pour eux. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. Effectivement, il n'y a rien de nouveau sous le ciel, mais il y a quand même un contexte qui est un peu différent, parce qu'aujourd'hui, les gens se serrent la ceinture pour leur facture d'électricité, etc. Et puis, il y a Zelensky qui s'achète des villas, je ne sais pas où, en sud de l'Italie ou ailleurs. Donc, c'est ça qui ne va pas. C'est ce truc-là, ce hiatus. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Ukrainiens eux-mêmes et Zelensky, qui certainement n'a pas beaucoup de raisons de se plaindre de ce point de vue-là, eh bien, ils commencent à dire vous nous avez poussé là et maintenant assumez. Parce qu'en réalité, je reviens à ce que j'ai. C'est pour ça que je disais il faut comprendre le conflit pour trouver les solutions. Je reviens à février 2022. Et je reviens à ce qu'a dit Arestovitch en 2019. On a poussé l'Ukraine, il fallait provoquer la Russie à intervenir. Et donc on a poussé l'Ukraine à provoquer l'intervention russe de façon à ce qu'on puisse appliquer à la Russie des sanctions qui la démolissent. Mais il fallait cette étincelle de départ. Et cette étincelle de départ, c'est pour ça qu'aujourd'hui Zelensky dit maintenant, vous nous avez amené là, maintenant ça vous nous donnez, vous me donnez des avions, des F-16, des trucs, des machins. Parce que, et on dit il est arrogant. Oui et non. Parce que, il y a certainement une arrogance là-dedans, mais il est arrogant pourquoi ? Parce qu'on lui a promis quelque chose. On lui a dit, tu fais ça, et après on te donne le sucre. Et puis, ce qu'il devait faire, ça ne devait pas du tout se faire comme ça. Ça devait se faire de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus feutrée. Il ne devrait pratiquement pas y avoir de guerre. Quand on écoute l'interview complète d'Arestovitch de 2019, on voit qu'on parle d'une guerre très rapide, un truc vite fait comme ça. Les sanctions font tout le boulot, en quelque sorte. Et c'est exactement... D'ailleurs, quand on lit aujourd'hui ce que disaient les responsables l'année passée, etc., les responsables occidentaux, on a vraiment l'impression que c'était l'idée. Et le problème, c'est que tout le monde était parti là-dessus. Puis aujourd'hui, les dindons de la farce, parce que la guerre se prolonge,
oui.
C'est les Ukrainiens.
Moi, je vois surtout un énorme désastre. Et je ne suis pas encore trop convaincu qu'il y avait vraiment un plan, parce que les gens qui sont au pouvoir, je les trouve tellement médiocres. Je ne vois pas comment ils... peuvent penser trois pas en avant. Non,
c'est pas un plan.
Cohérence.
Je t'interromps. C'est pas un plan. Enfin, c'est-à-dire que le plan, c'est on fait la guerre. Et le plan s'arrête là. C'est pas un truc où on a dit voilà, on va faire comme ça. Les Russes vont faire ça, nous on fait ça. Comme le joueur d'échecs qui calcule ses 8 coups d'avance. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans le cas du débutant en échecs qui déplace son pion pour laisser la placer le fou.
Il n'a aucune idée du truc. Il y a un truc qui m'a beaucoup... je ne comprenais pas vraiment. C'est les Pentagon Leaks. Hein, tu as entendu parler. Il y a eu tout un document qui sont ressortis. Puis c'était un jeune militaire qui a apparemment eu l'idée de publier ça. Ça me semblait un petit peu tiré, cousu de fil blanc. Et il y a beaucoup comme ça de brouillard de guerre, fog of war. Je me demandais si toi, tu avais un peu réfléchi à ça. Est-ce que c'est vraiment une fuite ou est-ce que les Américains, ils ont voulu commencer à dire un petit peu plus ce qui se passait sur le terrain sans vraiment l'avouer? Qu'est-ce qui se cache derrière ces Pentagon Leaks? Et puis, quelle était l'information qu'il y avait là-dedans? Parce que les Russes, ils ont dit « ouais, rien de nouveau ».
Alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai vu ces documents. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vu une grande partie. Alors, c'est effectivement des documents fuités. Je pense que là, quand on connaît la manière dont se présentent les documents, moi, j'en ai vu beaucoup du même genre... physiquement, on peut dire, on peut jamais exclure qu'il y ait des copies, des choses comme ça, mais disons, non, ça semble très réel, et ça semble correspondre d'ailleurs avec les informations qu'on a sur le terrain, en réalité. Donc, je pense que ce sont vraiment des fuites. Maintenant, ce jeune gars de la garde nationale, qui avait... Parce qu'il y a des documents là-dedans qui sont qualifiés top secret, secret compartment information, ou sensitive compartment information, SCI. Et ça, c'est le plus haut niveau de classification en réalité, parce qu'on dit toujours top secret quand on parle comme ça, enfin quand les amateurs parlent. Mais en réalité, à l'intérieur de la classe top secret, il y a toutes des catégories auxquelles certains peuvent avoir accès. Il y a plus top secret que top secret, d'une certaine manière. Et un des catégories top de la classification, c'est quand c'est top secret SCI, SCI en français. Et pour avoir des autorisations top secret SCI, il faut quand même, j'entends, en principe, il faut être très senior pour avoir accès à ça. Donc un gars comme ce jeune gars de 21 ans qui aurait ce type d'accréditation, ça semble un peu curieux. En revanche, il n'est pas complètement incongru qu'il ait, par exemple, une accréditation top secret. Pourquoi ? Parce que c'est un spécialiste de l'informatique. Et donc, quand il doit travailler sur un appareil informatique qui contient des documents top secret, il doit avoir la clearance top secret.
Donc, plutôt technique.
Donc, c'est, la raison est technique. Elle n'est pas parce qu'il prend des décisions.
C'est ce que j'ai entendu, effectivement.
C'est une raison technique. Donc, ce n'est pas incongru que ce gars soit tombé en contact avec des choses comme ça. Mais, d'un autre côté, quand on voit les documents qu'il y a, et les documents du Pentagone, c'est-à-dire du Joint Chief of Staff, ce qui serait l'état-major général en Suisse, il y a des documents qui viennent de la National Space and Geospatial Agency, donc l'agence de renseignement satellitaire. Il y a des informations qui viennent de la CIA, etc. Donc, ça veut dire que pour recevoir des informations classifiées de chacune de ces organisations, il faut être à un point de la hiérarchie où toutes ces organisations se rejoignent. Sinon, on n'a pas accès à ça. Donc, il faut être à un point de la hiérarchie. C'est le sommet un sommet de pyramide, d'ailleurs plusieurs petites pyramides, mais c'est un sommet de pyramide où ces informations remontent.
Convergent.
Voilà. Donc, il est peu vraisemblable que ce soit ce gars-là qui ait eu accès à ces documents, les ait photographiés et les ait envoyés, mais probablement plutôt qu'on les lui a transmis et que lui les a diffusés sur un réseau confidentiel au sens large du terme, confidentiel dans le sens restreint, un cercle restreint, et qui les a fait diffuser. Et c'est d'ailleurs apparemment ce à quoi tend l'enquête actuellement. D'ailleurs, constater qu'en fait, le gars est une forme de lampiste, en quelque sorte. On lui a envoyé ça, et puis c'est lui qui les a diffusés.
Apparemment, ça faisait des mois que ça tournait.
Oui, tout à fait. Ça faisait des mois. Et mon sentiment, mais c'est un sentiment, je ne veux pas le démontrer.
Donc, ça parlait quoi ? Ça parlait des plans, cette...
Il y a plusieurs catégories de documents.
Fameuse contre-offensive.
Alors, voilà, il y avait les documents concernant la situation actuelle des forces en Ukraine.
Oui, et toi, tu as des informations aussi là-dessus ?
Alors, moi, j'ai vu ces plans.
OK.
Donc, ça commence par là. J'ai vu ces plans. Il y a ça. Il y a des documents qui sont ce qu'on dirait en jargon technique de ticker. Donc, c'est les sortes de brèves, sortes de j'allais dire... podcast, non, c'est pas un podcast, c'est un news feed, voilà, de la CIA. Et comme ça, il y a des tas de nouvelles qui viennent, qui sont classifiées. Alors, elles sont classifiées assez élevées, donc ça veut dire que le gars qui les a reçues est un gars assez élevé dans la hiérarchie et qui reçoit ce news feed. Donc, c'est des sujets très différents, l'Iran, la Chine, les relations entre tel pays et tel autre. C'est vraiment le news feed, exactement comme dans ton news feed sur ton appareil portable. Tu reçois le truc de Google ou de je ne sais pas qui te donne les dernières nouvelles comme ça qui tournent. Ça fait 10 lignes et c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'analyse. Voilà. Donc, il y avait ça. Et ça concerne vraiment toutes sortes de choses à gauche et à droite. Concernant l'Ukraine, et j'ai un peu l'impression que le gars qui a envoyé ça, à mon avis, c'est un gars qui pense qu'on est en train de faire fausse route avec cette guerre et puis qui a fait exprès de montrer...
Une forme de lanceur d'alerte.
Une forme de lanceur d'alerte qui a fait ça. Sous le paravent de ce jeune gars de la garde nationale, ce Jack Teixeira. Et là, on voit les capacités logistiques. Alors, on voit que les Ukrainiens n'ont plus d'artillerie. Ils n'ont plus de munitions d'artillerie. La défense aérienne, elle est au moment où ils font. Donc c'est un rapport. Là, le rapport dont j'ai en référence, il est fin février, début mars à peu près. Et ils anticipent que au mois de mai, la défense aérienne ukrainienne n'existerait tout simplement plus parce qu'ils n'ont plus de missiles, ils n'ont plus rien. Donc, on voit une situation assez désastreuse quand même. Alors, ils présentent les 12 brigades que l'Occident essaye de
entraîner, former.
Armées et entraînées. Donc, il y a trois brigades qui sont...
Une brigade, c'est 4000 hommes ? Je peux me tromper, mais...
Alors, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, parce que quand on voit les effectifs, on se dit, mais où est-ce qu'ils vont...
Parce qu'il y a des chiffres, des pertes qui ont été...
Alors attends, toi, tu me parles des pertes, on parle de chaque chose en son temps. Donc il y a 9 brigades qui ont été mises sur pied par les Occidentaux et 3 qui ont été mises sur pied par les Ukrainiens. Et là, on voit que... C'est des brigades à 30 chars. Donc chez nous, en Suisse, ce ne serait même pas un bataillon. Pour prendre cet exemple. C'est un bataillon. Donc
moi,
on appelle ça brigade.
Je ne connais pas vraiment l'IA.
Normalement, dans une brigade, tu as plusieurs bataillons. Alors ça dépend des armées. Grosso modo, traditionnellement, on dirait qu'une brigade est entre 3000 et 5000 hommes, selon les pays. Voilà. Mais là, on est sur des brigades qui ne tournent même pas à 2000 hommes. Donc on est à des très gros bataillons. Attends, moi j'ai commandé un bataillon de chars, un bataillon léopard. Le léopard 2. Eh bien, on était avec un effectif qui était bon après renforcé quand il était renforcé tout ça, ça donnait des chiffres un peu plus grands, mais on arrivait en renforçant le bataillon à arriver à peut-être 1000 hommes, un peu moins, 900, etc. Mais un bataillon bien renforcé. Ça donne l'idée déjà de ce que... Donc, quand on a 2000 hommes pour une brigade et 30 chars, ça veut dire qu'on a l'effectif d'un bataillon plus de l'infanterie avec, c'est tout. Et là, je ne tiens pas compte non plus des gars qui sont derrière la logistique et tout ça. Donc, c'est pas tout les... quand on a dit on a 1000 hommes, c'est pas 1000 hommes qui sont au front. C'est... Voilà. Donc, quand on voit ces chiffres... Alors, il y a une chose intéressante dans ces documents, d'ailleurs, qui est assez caractéristique. On voit que les chiffres qui sont donnés sur les Russes sont plus précis que les chiffres donnés sur les Ukrainiens. C'est assez curieux, parce que ce document américain, on pourrait se dire, ils doivent être archi...
Les chiffres des effectifs, des pertes,
Des effectifs. Pas les pertes, on va laisser ça peut-être pour tout à l'heure, mais pour les chiffres des effectifs. Je parle, alors, pas les chars, parce que ça, ils savent, c'est les Occidentaux qui les ont donnés. Donc, ils savent combien il y a de chars. En fait, les hommes, ils n'ont aucune idée, parce qu'ils ont les chiffres que leur ont donnés les Ukrainiens. Mais ils ne savent pas combien il y a d'hommes, en réalité. Et ça, c'est assez frappant. Alors que du côté russe, ils les ont donnés de manière assez précise, parce qu'il faut savoir que ce qui ressort aussi de ces documents, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout autour de l'Ukraine, enfin, c'est-à-dire dans la mer Noire, au large de la Crimée, il y a des avions espions qui patrouillent, là, qui font le circuit, qui tournent en rond en mer Noire et qui observent jusqu'à 600 km de distance tout le théâtre des opérations et qui notent à peu près tout. Et avec des radars puissants, on arrive à faire...
C'est des avions ou des drones ? Parce que
c'est
l'histoire du drone là, qui s'est fait...
Oui, c'est la même chose que ça. Alors, il y a deux sortes de drones, enfin, des drones de ce niveau-là. Il y a le Global Hawk, le RQ-4, qui est un engin gigantesque, qui doit faire à peu près 40 mètres d'envergure, enfin un truc gigantesque, qui peut rester pratiquement plus d'un jour en l'air et qui peut tourner comme ça sans arrêt et qui observent jusqu'à 600 km de distance. Ils voient là 25 000...
J'ai vu des plans de vol, ouais, effectivement. Ça,
voilà, 25 000 mètres d'altitude. Puis il regarde avec il a un radar qui descend latéralement et il observe comme ça tout ce qui se passe. Il peut voir pratiquement tout le théâtre de guerre ukrainien. Celui dont il y a eu un
Raptor, je sais pas quoi.
Non, c'est un Reaper.
Ah voilà, Reaper.
Le MQ-9. Et ça, c'est un appareil. C'est le même système, mais un peu plus petit. Il vole plus bas et il a une portée que de 400 km. Ce qui donne quand même pas mal, ça permet de voir quand même une bonne partie du théâtre.
Toute la Suisse quand même. Hein.
Oui, mais il faut voir qu'il part depuis le... Il peut faire ça que depuis le centre de la mer Noire pour ne pas entrer dans l'espace aérien russe. Donc ça veut dire que ça le pousse quand même un petit peu. Il y a beaucoup de zones mortes qu'il ne peut pas surveiller. Et puis ça, c'est du côté de la mer Noire. Et puis du côté de la frontière terrestre, il y a entre la Roumanie, la Slovaquie, enfin tous qui sont des territoires de l'OTAN, eh bien, il y a les mêmes appareils qui font la même chose depuis le territoire de l'OTAN, plus les AWACS, les avions de surveillance d'espace aérien, et des avions qui font aussi le même travail d'observation comme ça du champ de bataille depuis depuis les frontières terrestres en l'air. Donc, les Américains ont une assez bonne visibilité de ce qui se passe sur le terrain. Genre, ce qu'ils arrivent à voir, c'est-à-dire qu'ils arrivent à voir des chars, ils ne savent pas nécessairement quelle va être la décision, pourquoi ils sont là, mais ils les voient. Donc, sur les cartes, on voit que les Américains ont assez bien répertorié le nombre de chars. Alors, c'est clair, quand on voit 30 chars, on dirait qu'il y a un bataillon. Quand il n'y en a que 10, on dira, voilà, il y a une compagnie. Je simplifie un peu le propos, mais c'est ça. Et c'est ce qu'on voit sur la carte. Du côté ukrainien, rien. Ils ne savent rien. Les effectifs sont donnés pratiquement du simple au double. Alors, c'est indiqué dans tel secteur, il y a entre 2000 et 4000.
C'est tout. À la louche, quoi.
À la louche. Ça veut dire qu'apparemment... dans ces documents, qui sont top secret. Donc, ça veut dire que les Américains n'ont pas de raison de cacher des trucs, puis c'est secret.
Mais même, c'était publié parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui voulait passer une loi pour qu'on aille vérifier où allaient les armes, donc au Parlement américain, où allaient les armes qu'on livrait à l'Ukraine. Parce que...
Mais ça, c'est autre chose.
Mais c'est un peu la même idée. Si on veut faire ça, c'est qu'on ne sait pas où vont ces armes et où elles sont...
Oui, d'accord, mais c'est un peu autre chose.
Okay.
Là, on parle de documents secrets qui sont des documents américains destinés à un état-major américain et donc qui, en principe, ne sortent pas. Parce qu'on sait exactement à qui ils ont été distribués ces documents. Parce que c'est écrit dessus. On sait qui les a reçus. Les documents que l'Ukraine ne reçoit pas. Donc, pourquoi là-dedans, et même si l'Ukraine, d'ailleurs, devait les recevoir, pourquoi ils cacheraient des chiffres que l'Ukraine sait déjà? Donc, s'ils ne les mettent pas, c'est qu'ils ne les savent pas. Ça veut dire qu'en clair, ils ne sont pas capables de les compter eux-mêmes. C'est les Ukrainiens qui refusent de leur dire.
Et qu'est-ce que ça voudrait... Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence ou signification? Qu'ils ne veulent pas dire ça?
Alors, la conséquence, disons, l'observation immédiate qu'on peut faire, c'est que d'abord, les Américains n'ont pas la capacité de renseignement autonome pour analyser ce conflit. Ils ne voient ce conflit qu'à travers le prisme des Ukrainiens. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'eux-mêmes n'ont pas une... Ils voient des choses dans le terrain, ils voient des chars. Alors, quand ils donnent les effectifs après, c'est assez simple. Ils disent, voilà, il y a un char avec 3 hommes dedans, donc il y a 10 chars que j'ai vus, donc il y avait 30 hommes. Ah, plus un gars avec sa Jeep qui commande, enfin un qui conduit puis un qui commande, donc on dit 32. Je simplifie, mais c'est un peu comme ça qu'ils font. Et donc, ils arrivent à des chiffres précis sur les Russes en faisant ce type de comptage. Voilà. Pour les Ukrainiens, ils n'ont pas fait ça. Ils s'en sont remis à ce que disaient les Ukrainiens. Parce qu'ils ne savent pas combien il y a d'hommes dans un Bradley, par exemple. Le Bradley, c'est un véhicule de transport de troupes. Véhicule de combat d'infanterie
américain
qui a été mis à disposition, donné à l'Ukraine. Mais on ne sait pas si les Ukrainiens vont l'utiliser comme char de combat, je simplifie, mais... Ou est-ce qu'ils vont l'utiliser comme véhicule de combat d'infanterie avec d'infanterie? Est-ce qu'ils vont mettre 8 hommes dedans? Est-ce qu'ils vont mettre 3, 4? On ne sait pas. Donc, ça veut dire que les Américains ont une visibilité du champ de bataille à travers les yeux des Ukrainiens et qu'ils n'ont pas la capacité eux-mêmes de générer les chiffres qui sont sur les cartes.
Ok, alors ça c'est nouveau pour moi parce que j'avais l'impression, mais alors c'était peut-être la propagande russe pour le coup, mais qu'une grande partie des commandants, c'était des commandants américains justement qui étaient sur le terrain et puis qui donnaient un peu les ordres de comment
ça, je pense pas.
Faire la guerre.
Non, je pense pas. Il y a et ce qui s'est passé, on fait une confusion là, c'est que il y a par exemple il y a des matériels comme le M777 ou M777, ce qui est un obusier tracté que les Américains ont donné à l'Ukraine déjà l'année passée, qui est un obusier très précis, enfin bref, qui a de bonnes performances, portée, etc. Mais c'est un engin qui est assez complexe parce que normalement, il doit être intégré dans des réseaux d'information pour avoir les données, etc. Même chose pour ces fameux HIMARS.
Ouais.
Ces lance-roquettes multiples.
Longue distance ou moyenne distance?
Oui, moyenne distance, il faut dire. La longue distance, les Américains ne voulaient pas en fournir, de peur que les Ukrainiens tirent sur le territoire russe. Donc, moyenne distance, on va dire. C'est-à-dire l'ordre de 30-40 kilomètres, grosso modo. Et ces appareils sont des appareils qui sont relativement précis, de nouveau, qui fonctionnent avec des coordonnées satellitaires, etc. Et donc, il y a quand même une mise en œuvre de ces trucs qui demande une certaine expertise que les Ukrainiens n'ont pas eu le temps d'acquérir. Donc, il y a eu certainement, pour un certain nombre de ces matériels, les Américains, pas seulement les Américains d'ailleurs, probablement aussi les Anglais, les Français, ont envoyé des experts sur place, non pas pour commander les opérations, mais pour aider les équipages à servir correctement leur matériel. Mais, alors, je peux me tromper, hein, moi j'en sais rien, mais je ne pense pas qu'il y ait des commandants étrangers dans les unités ukrainiennes. Ce qu'il peut y avoir, c'est d'ex-militaires occidentaux qui sont partis en Ukraine comme volontaires et qui servent comme volontaires dans des unités de volontaires. Ça, c'est tout à fait possible. Ça, c'est autre chose. Mais dans l'armée régulière ukrainienne, je peux me tromper, hein, mais je n'affirmerai pas qu'il y a des commandants...
On n'a pas trouvé d'informations dans les médias dont tu parlais tout à l'heure. Ok. Donc, pour revenir à ces fuites.
Alors voilà. Donc ces fuites montrent que, à mon avis, montrent les faiblesses du renseignement américain en réalité. Beaucoup ont dit mais on y a vu que les Américains avaient pénétré bien les réseaux russes, etc. Non, je pense que au contraire, ce qu'on voit là-dedans, c'est une certaine faiblesse du renseignement américain qui dépend des Ukrainiens pour voir le champ de bataille. Donc là, il y a un sérieux problème. Ça montre la faiblesse des Ukrainiens. Et quand on voit que ces forces ont été mises en place, bon, là, on est en février, début mars. Hein. Les documents que j'ai vus, c'était début mars. Entre le 28 février et le début mars, donc c'est vraiment...
2023, oui.
2023, donc ça veut dire qu'on est à deux ou trois mois maintenant de ça. Donc, c'est l'état à l'époque. J'imagine que ça a changé. Mais à l'époque, effectivement, on pouvait s'attendre à ce qu'on voyait. C'était une armée qui était extrêmement mal préparée à l'offensive qu'elle promettait.
Elle promet encore.
Oui, qu'elle promet encore, d'ailleurs. Avec le caveat que 3 mois sont passés. Alors, c'est 3 mois pendant lesquels l'armée ukrainienne a sans doute pu compléter ce qui lui manquait en mars. Mais c'est aussi 3 mois pendant lesquels les Russes ont frappé. Et c'est aussi 3 mois pendant lesquels une bonne partie des effectifs qui étaient sur ces cartes n'existent plus. Mmh. C'est avant-hier, d'ailleurs, il y a eu une gigantesque série de frappes sur des concentrations de troupes en vue de cette offensive. Et on peut s'attendre à ce qu'effectivement, il y ait eu des changements dans les effectifs, pour employer un euphémisme.
Mmh. Il y avait des indications d'ailleurs sur les pertes déjà il y a trois
alors
mois,
il y avait un tableau sur les pertes, mais là de nouveau on a alors c'est un tableau qui a fait l'objet de controverses parce que apparemment il y a un document original qu'on voit, que j'ai vu et qui a tourné, mais certains l'ont repris et puis ont falsifié les chiffres dessus et ont remplacé. Alors c'est du maquillage assez grossier, il faut dire. Ouais, oui. Okay. C'est grossier. Mais bref, si on prend les chiffres originaux qui donnent des pertes ukrainiennes moins grandes que celles des Russes, bien sûr, mais qui donnent quand même des pertes assez substantielles, à mon avis, qui restent encore bien en deçà de la réalité, mais bon. Ces chiffres-là montrent que les Américains n'ont strictement aucune idée des pertes ukrainiennes. Aucune.
Vous venez d'écouter le quatrième épisode de cette série de 6 sur l'Ukraine avec Jacques Beau, réalisé par The Swiss Box Conversation. Retrouvez les autres épisodes en cherchant le numéro 16202 sur le site radiolibre.ch.